Allô, oui, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris.
D'accord.
Vous êtes prête à répondre à nos questions ?
Si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail.
L'œil à l'écoute, c'est...
Un œil sur la banlieue, à l'écoute du terrain.
L'œil à l'écoute, c'est...
Un pied en Seine-Saint-Denis.
Un micro ouvert sur le quotidien.
C'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9.
L'œil à l'écoute, c'est surtout...
60 minutes de radio tous les 3 derniers samedis du mois de 18h à 19h.
Ça va être difficile parce que l'émission, c'est une émission radio.
Pardon, je comprends pas ce que vous dites.
L'œil à l'écoute, là l'émission de où ?
Tous les 3 derniers samedis du mois de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. Nous sommes ensemble pendant une heure et contrairement à nos habitudes, nous n'avons pas d'atelier. Donc nous allons vous proposer une collaboration de L'œil à l'écoute avec trois artistes qui proposent une exposition en ce moment à l'espace Chiasma. Donc cette heure va être consacrée à la fois au travail qui s'appelle Désintégration, qui sera aussi consacrée à cet espace Chiasma qui est au Lila pour ceux qui ne le connaîtraient pas. On va donc évoquer pas mal de choses et on a la chance d'avoir avec nous deux participantes aux ateliers proposés par Patrick. On va avoir le temps de tout remettre dans l'ordre. Donc l'exposition s'appelle Désintégration. On est ensemble pendant une heure et pour vous mettre dans le bain, ça donne à peu près ça.
I gotta say, the benefits are huge, and it goes without saying that everyone needs to be a member of MinUSA. ISOC is a proud member, but you get the free snowmobile magazine on top of it all. So it's like, you know, your $20 membership. That's all it costs to become a member. You get the free magazine. You get all these other crazy benefits.
Alors, on est bien sur le 93.9, vous écoutez Radio Campus Paris. On vient d'écouter comme ça des voix qui se mêlent et s'entremêlent. C'est ce que était donné à entendre à l'espace Chiasma du 22 au 26 novembre. Et ça s'appelle Désintégration, c'est un travail collectif à trois têtes. Il y a donc Patrick Fontana, bonjour Patrick.
Bonjour.
Il y a Emeric Alters.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Pierre-Yves Favre, voilà, bonsoir.
Bonsoir.
Donc Désintégration, est-ce que Patrick, tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, s'il te plaît?
Alors Désintégration, c'est d'abord ça part d'un atelier
à Emmaüs, que je mène depuis 5 ans, avec des personnes qui sont en apprentissage du français langue étrangère. Cet atelier est un atelier où je propose de travailler la langue française à partir de poésie, à partir de textes contemporains, avec un cours de chant de la langue française. Et cet atelier, qui devait durer une année, va continuer. Donc c'est la cinquième année maintenant. Et dans cette durée, on a, avec Pierre-Yves et Émeric, créé une première installation vidéo-performance qui s'appelait Lecture de bouche autour d'un poète roumain qui s'appelle Gerasim Luca. Et dans la continuité, j'ai proposé à l'Espace Chiasma et à Olivier Marbeuf de poser un autre projet autour des questions de l'apprentissage du français aujourd'hui en France, en regard des lois, des nouvelles lois d'immigration, la loi Hortefeux, loi Besson et le code CESEDA, qui stipule aujourd'hui que toute personne qui veut rentrer sur le territoire français doit parler français avant de rentrer. Et me trouvant dans un espace où les gens qui sont à Emmaüs sont déjà sur le territoire français, j'ai voulu donc poser cette question de l'apprentissage de la langue en proposant cette installation autour de Baudelaire. Et dans cette installation, qui est assez complexe, et on va sûrement essayer de la décrire pour les gens qui nous écoutent, on entend donc deux poèmes de Baudelaire, L'étranger et L'invitation au voyage, en français. Et j'ai proposé dans cet atelier de trouver et de faire des traductions de ces poèmes dans les langues maternelles des gens avec qui je travaille, et de créer une tension entre langue maternelle et langue apprise, et d'arriver à entendre cohabiter ces deux langues dans cet espace, qui est un espace sonore. C'est un projet de spatialisation du son. Et je pense que c'est Pierre-Yves qui va s'en occuper, qui va nous raconter un peu plus l'espace de la spatialisation.
Alors Pierre-Yves, spatialise un peu tout ça. Déjà, est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de la façon dont vous proposez le travail? C'est-à-dire que c'est un espace qui est à la fois ouvert et en même temps divisé, et il y a à la fois à voir, à entendre et à comprendre beaucoup, j'ai l'impression. Pierre-Yves, comment vous avez travaillé? Comment ça se passe? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ces espaces, justement?
Oui, alors on a essayé en fait, ça part peut-être de plusieurs images, d'une image en particulier qui était de s'imaginer arrivant par exemple dans une gare, fermant les yeux et écoutant les sons de personnes autour de nous qui parlent dans des langues différentes, qui parlent et qui parlent d'une manière, d'un langage poétique et un langage et qui aussi émettre des sons.
Et le fait qu'on soit dans cette foule nous fait aussi qu'on perçoit des bribes, on ne perçoit pas forcément l'intégralité des phrases. Donc, je sais que tout le système de diffusion est piloté par ordinateur. Et comment se fait ce pilotage, et qu'est-ce que vous avez choisi justement de tous ces témoignages pour qu'on puisse les réentendre?
On a pris un corpus de toutes ces voix qui sont les voix des participants aux ateliers de français langue étrangère et surtout d'Emmaüs à la formation de base, comme un ensemble, moi plutôt comme un ensemble chantant peut-être. Donc ça reste presque musical pour nous, puisque c'est... Quand une langue, on ne la comprend pas, en fait, on est obligé d'en tirer quelque chose au niveau de sa mélodie.
Et alors justement, comment est-ce que vous arrivez à recréer cette impression de foule qui se déplace autour de nous, alors qu'en l'occurrence, il n'y a pas de foule, il n'y a pas de lecteur qui se déplacerait dans la place, dans la pièce, par exemple?
Voilà, alors c'est la phase technique de mise en place. On a écrit un programme ensemble qui était le qui est un programme qui est fait dans le langage Pure Data et qui pilote du coup 12 haut-parleurs dans l'espace et simule la présence donc de personnes, de voix dans cet espace en sachant que ces voix déambulent dans l'espace et sont comme dans des rythmes et des rythmes et en nombre variable selon les moments. C'est une installation en temps réel avec donc il n'y a pas de boucle, c'est plutôt comme le temps qui passe aussi, et on a essayé de rendre compte de ça.
Et alors là, on va se retourner vers la personne qui n'a pas encore parlé, donc Aymeric. Toi, donc, tu es plutôt un musicien au départ, et je voudrais savoir, il y a d'autres éléments que des éléments de voix qui ont été rajoutés. Est-ce que tu pourrais nous dire lesquels sont au style et pourquoi vous les avez rajoutés ?
Donc, en tant que musicien, je t'avouerais que c'est un peu une composition à l'aveugle quand même qui a été faite, parce qu'on a développé, comme je disais, un programme qui est Pure Data, qui est open source, qui est quelque chose que c'est un langage et tout ça. Et donc moi, quelque part, j'ai aussi essayé de développer un langage dans le sens où, quand je dis composition à l'aveugle, c'est-à-dire tout s'est quand même fait aussi en temps réel dans l'espace d'habitation qu'on a eu à Casma. C'est-à-dire que dans cette demande-là, moi, j'ai créé des banques. C'est-à-dire il y avait des banques avec du noise, ce que j'appelle du noise, c'est-à-dire des bruits un peu durs, des micro-mélodies, des micro-rythmes, des glitches, c'est-à-dire toutes ces erreurs numériques. Après, j'en oublie, je sais pas, on doit être 7-8 banques. Et je tiens aussi à remercier Roselyne de l'espace Chiasma pour nous avoir prêté son violon et sa patience quelque part, parce que ça rajoutait un petit peu de texture. Et depuis longtemps, on cherchait du violon. On a cherché longtemps et ça s'est annulé. Et on s'est retourné, on s'est retrouvé à l'espace Chiasma où elle nous a dit ben, merci, moi je fais du violon. Donc on a cherché beaucoup autour de nous et en fait ça se passait tout simplement à Chiasma. Après, comment ça s'est passé? Quand je dis composition à l'aveugle, c'est quand on a passé en l'occurrence avec Pierre-Yves et Patrick 3-4 jours à justement gérer un petit peu ce logiciel qui a été créé quand même, qui est un peu, moi je l'appelais la boîte de Pandore. C'est pas une boîte de Pandore parce que c'est beaucoup de possibilités, mais c'est surtout comment les réfréner et comment lui dire mais on voudrait moins de voix, plus de voix, des silences. Donc on a appris à maîtriser un petit peu cette chose un peu improbable, et qu'à la base, moi, en tant que musicien, c'est la première fois que je le faisais un petit peu comme ça, et que tout s'est vraiment composé dans l'espace de travail de Chiasma. Et après, c'est ma propre musicalité, c'est-à-dire que ça fait longtemps que je travaille avec Pierre-Yves et Patrick, donc ils me disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, je fais des propositions et ils sanctionnent, ou ils disent retravaille plus ça ou va ailleurs. Et après, tout s'est composé sur place. Après, on...
Alors, espace de diffusion, espace de création, espace de recherche, on sent bien que ça tâtonne, c'est pas évident. Il y a une grosse part d'aléatoire du fait de l'outil que vous utilisez. Patrick, comment est-ce que se fait ce temps de recherche, et est-ce que finalement ça exprime pas toute la fragilité du projet qui fait que bah, parfois tes participants sont en nombre 10, 12 et la fois d'après ils sont 7, ils sont 6, ils restent pas sur le long de l'année? Est-ce que cette recherche et cette fragilité vont de pair?
Alors dans l'atelier en lui-même, dont tu poses la question, c'est plutôt assez étonnant, mais les gens sont très présents, parce qu'à Emmaüs, il y a une obligation aussi d'engagement pour être là régulièrement. Et le fait aussi que cet atelier est un peu un plus par rapport à l'enseignement, hein, que vous avez à Emmaüs, ça crée une envie, un désir, et les gens sont, ça je pense qu'on pourra demander à Nidia et à Tienga qui sont à côté de moi, et qui, avec qui nous avons travaillé 2 ans en fait. Donc il y a aussi une autre relation qui s'installe aussi avec les gens, avec la durée. Et je les remercie aussi d'être revenus dans l'espace pour participer à cette émission. Mais dans l'atelier, il y a cette cette idée que les gens sont assez présents, en fait. Hein. Et s'ils s'en vont, c'est qu'ils disparaissent pour aller travailler, pour trouver... Il y a eu des personnes qui sont parties parce qu'ils avaient un logement plus loin, ils ne pouvaient plus revenir. Après, c'est le contexte social qui met en place la disparition des gens dans l'atelier, mais pas forcément dans... parce qu'il y a... Et j'ouvre toujours aussi l'atelier, donc les gens de l'AFB, donc l'atelier formation de base d'Emmaüs, me reproposent aussi de faire rentrer des gens en cours d'année, parce que moi, plus il y a de monde, plus l'atelier est fort, quoi. Il y a d'énergie qui circule. C'est un atelier où on fait beaucoup circuler les poèmes, les voix, les rythmes. Quand on arrive, on enlève les tables, on se met les chaises en rond, on est dans un espace un peu plus de travail. Quoi.
Alors ça, c'est, on va dire, la partie un petit peu cachée du travail. Aujourd'hui, là, on est dans le lieu d'exposition, on est confronté à l'œuvre qui en témoigne. Comment se fait ce passage, justement, des ateliers vers cette construction que vous nous offrez ?
Bah, ça se fait d'abord par l'enregistrement à Radio Campus. Donc, je remercie encore l'œil à l'écoute de nous avoir permis d'enregistrer, avoir une autre expérience que l'atelier pour ces personnes, parce que c'est un moment de déplacement de l'atelier où on va passer une journée à Radio Campus. Il y a cette découverte aussi d'un studio d'enregistrement. Ça nous permet aussi, à un moment donné, de s'écouter, des fois, pour la première fois, dans une autre langue. Et puis, les enregistrements aussi, c'est un travail à part entière. Et donc, c'est à la phase de l'enregistrement que se constitue aussi l'élaboration de comment les choses vont se faire. Alors, pour des intégrations, il y avait cette idée de travailler sur Baudelaire et donc de comment trouver cette durée et comment cette durée à un moment donné devait, puisqu'on avait décidé l'idée plutôt, nous on avait l'habitude de faire plutôt des vidéos performances, donc là il y avait cette idée de proposer une installation donc dans une durée très longue. Et aussi, le son, c'est pas non plus notre objet principal, donc c'est un premier objet sonore qu'on fait. Et donc il y avait toutes ces difficultés aussi à appréhender un nouveau médium. Et Pure Data, c'était ce logiciel libre qui est très, très innovant et qu'on a découvert depuis 3-4 ans maintenant, hein, c'est ça. C'était une façon aussi de continuer nos recherches dans cet outil.
Et alors, pourquoi avoir donné autant de place à l'aléatoire ? Au fait qu'on ne peut pas prévoir, peut-être Pierre.
C'est quand même construit. Hein. Composition, elle est construite, mais elle est contrainte. Ouais. L'aléatoire, il est très, il est assez maîtrisé. Quoi. Il y a 14 séquences, il y a un ordre, il y a des phases où on entend le poème de l'étranger en français, ensuite en langue maternelle, l'invitation au voyage, ensuite ce qu'on appelait des chaos, où là, il y a un random de tous les éléments. Donc il y a quand même, de toute façon, dans l'installation... une composition qui est maîtrisée, avec simplement des lignes de fuite comme ça, où le logiciel va aller chercher d'autres données qu'on a installées, quoi.
Moi, je peux... En fait, il y a quand même une dimension de sens qui était importante aussi dans l'utilisation du hasard. On aurait pu faire des boucles, on aurait pu... diffuser des enregistrements, et en fait on avait quand même l'idée quand même de retranscrire un petit peu ce qui se passe dans la vie. C'est qu'il n'y a pas forcément de tout n'est pas préécrit, peut-être, enfin je sais pas, ça dépend des opinions de chacun, mais c'est en tout cas toute cette phase de travail qui était en se questionnant, c'est que des questions-réponses, en fait, et une manière aussi de poser des questions à ceux qui viennent.
Voilà.
Mais il n'y a pas qu'à entendre dans cette exposition, il y a aussi à voir. Est-ce que Patrick, tu pourrais nous en parler un petit peu, s'il te plaît ?
Alors, on voit aussi plusieurs éléments. Toujours un écran piloté par Pure Data, où là, on voit le code CZA d'entrée et séjour des émigrés en France, qui est un peu comme ça en lecture, mais c'est une lecture fragmentée, désordonnée, comme une langue étrangère. Donc c'est un texte administratif qui régit donc l'entrée et séjour des émigrés en France. Et en opposition, on a ce poème de l'étranger, qui lui est dans un espace où toutes les langues qui ont été travaillées sont inscrites. Donc il y a en simultané les traductions en français, en turc, en tigrinya, qui est une langue d'Érythrée, en russe, en arabe, en tchèque, en tamoul. Donc c'est l'apparition aussi de ces langues, quoi. Ce qui était important aussi, c'était l'utilisation de langues étrangères, quoi. De les voir aussi, quoi, de les voir s'inscrire dans l'installation, pas simplement de les entendre, mais d'avoir toutes ces langues dans un même espace.
Et alors tu oublies une partie.
Alors je merci de me faire la Alors, il y a un préambule, et donc un préambule à cette exposition, c'est un travail graphique de notes dessinées autour d'une thèse de 2001 d'un chercheur qui s'appelle Christophe Bertossi, qui a écrit donc sa thèse autour des frontières de la citoyenneté en Europe, que j'ai trouvé dans une bibliothèque. Et donc, j'ai l'habitude depuis une quinzaine d'années d'essayer de comprendre des livres difficiles. Et cette compréhension passe par le dessin. Et donc, est proposé à la lecture un corpus de 170 notes dessinées qui traversent trois chapitres du livre pour mettre un peu aussi contextualiser l'installation et le propos qu'on a autour de ces questions de migration. C'est ce qui me semblait, moi, comme sûrement beaucoup d'autres, on ne connaît pas trop l'histoire des lois, l'histoire de l'accueil, de l'hospitalité en France sur deux siècles. Et c'était important pour moi d'avoir aussi cette entrée pour parler de ce sujet, évidemment.
Très bien. Alors, je vous rappelle qu'on est sur Radio Campus Paris, 93.9. Vous êtes dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. On va faire une première respiration musicale et on va se retourner vers notre musicien du soir, Aymeric. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes à écouter, là, s'il te plaît ?
Qu'est-ce que je propose à côté ? Parce que c'est en fait pour l'ouverture, ce que vous avez entendu, il y a eu un problème de captation qui est propre à la réverb ici. Donc j'ai fait des essais de captation, j'ai tout essayé. Et c'est pour ça que je l'ai recomposé en temps réel. Donc ce sera peut-être le seul morceau live que vous entendrez dans cette session radiophonique. Mais le seul morceau complet qui dure 3-4 minutes qui a été composé uniquement pour justement pour désintégration, vous allez l'entendre. Et vous allez entendre les violons de Roselyne d'ailleurs dessus, parce que il y a un truc aussi qui a pas été dit tout à l'heure parce que j'ai pas eu une réponse. Bah si, je tiens à remercier Roselyne, heureusement qu'elle était là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien voir que c'est un espace de circulation qui a été créé ici, qui est difficile à retranscrire. Tout à l'heure, j'ai dit c'est un peu une écoute à l'aveugle, mais c'est pas à l'aveugle en fait, c'est à la sourde, parce qu'il y a 12 enceintes, donc tout ça circule autour de vous et vous restez statique où vous circulez. Donc voilà, le morceau, c'est le seul vrai morceau qui a été composé pour désintégration.
D'accord, donc le temps qu'il aille appuyer sur le play de son laptop, je vous rappelle qu'on est sur Radio Campus Paris et c'est rien que pour toi, baby. Thank you. Vous êtes bien sur les ondes du 93.9, vous êtes dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. Et ce samedi, nous nous intéressons à une exposition qui s'appelle Désintégration, qui prend place dans un lieu culturel qui s'appelle l'espace Chiasma, qui se trouve au Lila. Donc deux nouveaux intervenants que nous avons salués. On va démarrer par Roselyne. Bonsoir Roselyne, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es s'il te plaît ?
Bonsoir, alors je travaille à l'espace Chiasma depuis 4 ans en tant qu'administratrice et progressivement aussi coordinatrice et suivi de projet.
Et nous avons à tes côtés Olivier Marbeuf, qui est donc la personne qui est en charge de ce lieu.
Oui, je suis le directeur et voilà. Je suis aussi le fondateur de l'association.
D'accord.
Il y a deux activités, hein, donc il y a l'association Chiasma et l'espace Chiasma. Pour dire peut-être en introduction, ça permet de faire la transition avec le travail de Patrick, de Pierre-Yves et de Aymeric, que le projet d'intégration est un projet qui va recouvrir les différentes réalités en fait, de Chiasma. Donc ça aussi, un peu, c'est des projets un peu bonus. Là, ça allume un peu toutes les cases, puisqu'à la fois Chiasma est actif sur le territoire. Donc on accompagne des artistes en résidence ou en projet de création, souvent en interface avec des questions sociales et le territoire. Donc ça, c'est une partie de notre activité qui est d'ailleurs historique et qui précède même la fondation de l'espace Chiasma. Et par ailleurs, on fait de la production et diffusion artistique dans notre espace avec le projet de désintégration qui est le second, comme le disait Patrick, puisqu'on a accompagné en fait aussi le précédent Lecture de Bouche. On a à la fois accompagné, en travaillant avec Patrick notamment en amont, le projet à Emmaüs, avec la proposition il y a 5 ans de faire des ateliers autour de la poésie contemporaine et de la littérature avec des primo-arrivants. Et à l'arrivée, on accueille en fait dans l'espace la restitution qui, les deux vont ensemble pour nous. Évidemment, le projet s'appuie sur une vraie expérience inscrite dans le temps, ce qui pour nous est vraiment... c'est un peu cas d'école, c'est un peu un modèle, c'est-à-dire c'est vraiment s'inscrire dans le temps avec les gens, tout en étant dans un second temps en capacité de soutenir des écritures artistiques un peu singulières, et donc de relier à la fois une implication dans un contexte social, mais aussi une vraie exigence quant aux formes qui vont se construire à l'arrivée.
Alors tu parles de formes, au travers de ce temps d'exposition, vous avez organisé 3 rencontres qui étaient des conférences. Pourquoi ces conférences et en quoi ce dispositif complète le travail de ces messieurs ?
Alors, ce qui est assez important, en fait, c'est déjà, en fait, le projet d'intégration s'inscrit dans une saison à l'espace Chiasma qui s'appelle « Les empires intérieurs », qui est un peu une hypothèse de travail que moi j'ai émise pour le projet artistique du lieu, qui est de réfléchir à ce que deviennent les anciennes puissances impériales lorsqu'elles n'ont plus de territoire à conquérir, et donc réfléchir au territoire national comme peut-être une nouvelle forme d'empire, mais qui serait cette fois-ci intérieure, c'est-à-dire à la fois psychologique, mais à la fois aussi à l'intérieur du territoire français. Donc ça, c'est un peu un cadre général, je dirais un métaprojet dans lequel s'inscrivent les différentes invitations et programmes artistiques qu'on réalise, donc chacune en éclairant à chaque fois des aspects différents. Avec Patrick, il y a vraiment cette entrée autour de la question de la langue, la circulation dans le territoire et ce qu'est le français. On a fait à l'automne un programme qui s'appelle Anthologie des colonies, qui était beaucoup plus autour du fait colonial à Chiasma et dans plusieurs lieux en Île-de-France. Donc là, l'invitation qu'on a construite avec Aymeric, Patrick et Pierre-Yves, elle a un peu de niveau et je pense que ça correspond tout à fait à ce qu'on essaye de faire et ce que je pense qu'on va progressivement, j'espère, réussir à faire, c'est-à-dire à la fois mettre en place un propos artistique qui intègre en fait aussi des conditions d'intelligence collective, de penser ensemble, d'échange, de construire des choses ensemble. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le projet artistique en tant que tel, il va produire tout un espace sensible et qui pour moi est la première mission qu'on réalise ici. Par ailleurs, on a créé un lieu ici en entrée libre qui questionne les questions de circulation et de possibilité d'accéder à des choses dans l'espace urbain. Et la construction de ces moments de rencontre, avant même, je dirais, de choisir des gens qui, au demeurant, sont des gens tout à fait passionnants et compétents sur différentes questions, c'était surtout de construire des dispositifs où on se retrouve ensemble et on essaye de au-delà de conférences, comme tu disais, c'est peut-être des moments où il y a des gens qui nous apportent une base de pensée et on essaye après de fabriquer de la pensée ensemble. Donc ça veut dire, comme dans l'exposition, tu n'as pas parlé, mais il y a des dispositifs pour s'allonger, s'asseoir, à la fois pour aussi créer de l'écoute, mais aussi pour créer des moments où on se retrouve. Ce principe de foyer au cœur des expositions, il est inauguré de manière plus spécifique dans ce projet-là, mais c'est vraiment aussi une idée qui traverse de manière beaucoup plus profonde ce qu'on essaye de faire. Peut-être aussi pour inventer une nouvelle forme de lieu culturel qui ne soit pas spécifiquement uniquement lié à la scène artistique, mais aussi lié à des questions de société, comment on se retrouve, comment on discute, des fameux lieux de sociabilité qui, moi, je trouve, ont disparu des villes. Donc ça, c'était un peu le propos, et je trouve que la proposition là, de l'équipe de Patrick a permis de réaliser ces rencontres-là. Après, ce qui est intéressant, c'est que Patrick le disait, Pierre-Yves le dit, Émeric le dit, finalement, c'est un projet composite qui part dans beaucoup de directions. Et on avait envie d'essayer, à travers les rencontres, de pointer les différents aspects que ça touchait. Aussi bien d'un côté, on a accueilli Christophe Bertossi, donc sur lequel a dessiné Patrick, Sophie Vaniche, donc eux, ils étaient sur les questions vraiment de citoyenneté et de territoire européen. Sophie Vaniche, nous rappelons au passage en fait que historiquement, au moment de la Révolution française, la citoyenneté n'était pas du tout associée à la question de la nationalité, ce qui est quand même un aspect de la réflexion qui, pour moi, me semble très, très intéressant et très important aujourd'hui à remettre en circulation. Christophe Bertossi nous montrant aussi que la question de la citoyenneté européenne ne s'oppose pas en fait, fondamentalement à la citoyenneté française, si on pense la citoyenneté comme autre chose qu'un phénomène national. Le lendemain, on accueillait Joseph Raffanelli-Aura, qui lui est psychologue auprès des précaires, et qui lui reposait une autre perspective du projet, qui est la question de la relation et de la nécessité d'avoir donc un autre pour être en relation, et donc de l'étranger à l'intérieur même du national. Donc, quelque part, la question de l'étranger est d'abord une question qui doit se poser avec soi-même et avec celui avec qui on est en relation. Lui, il suit au quotidien des gens qui sont en situation de précarité et qui le rencontrent parce qu'ils sont en train de tenter de se réinsérer. Donc, il y avait le terme « intégration » qu'a déplacé Patrick dans son titre. Le terme « d'insertion » dit aussi un certain nombre de violences qu'on peut aussi faire aux gens et une considération qui aurait un intérieur et un extérieur. Ça a été mis en discussion. Enfin, hier, on accueillait donc deux personnalités, je trouve là, du coup, tout à fait différentes. Anne Sauvergnat, qui, elle, nous a parlé de ce rapport entre Baudelaire et Benjamin et justement la manière dont Baudelaire, au-delà d'être un auteur patrimonial, est d'abord un auteur du basculement moderne. Et le choix de Patrick, du coup, s'en trouve renforcé au sens qu'à la fois Baudelaire, c'est à la fois donc le fleuron national et l'étranger dans la langue. Et là, c'était très, très clair dans ce qu'elle nous racontait, qui prenait des nouveaux sujets et qui est au départ de ce qu'on peut appeler la modernité. Et avec elle, il y avait donc... il faut que je lise son nom parce que je ne peux pas le retenir comme ça, à la fond de Lan Tran, qui lui est vietnamien, qui est un traducteur très important et qui nous a aussi donc, qui a traduit les deux poèmes en vietnamien à partir de Baudelaire et qui lui a remis en circulation une autre idée, la relation entre la colonisation française et le vietnamien, nous faisant apparaître moi une perspective que je n'avais pas du tout aperçue, qui est que la colonisation avait finalement produit un processus de latinisation de l'écriture vietnamienne et qui elle-même avait produit l'émergence de nouveaux types d'écriture romanesque au Vietnam qui n'existaient pas avant et avait constitué la nouvelle scène littéraire vietnamienne. Donc du coup, c'est très troublant parce que finalement, dans ce type de propositions comme celle de Patrick, rien n'est tout à fait stable. On peut dire que les choses sont d'un côté et l'autre, elles sont tranchées. Il y a énormément de contradictions qui apparaissent et que ces moments de rencontre, d'exposition d'idées par nos invités, mais aussi de mise en débat avec les gens qui étaient présents, ont permis de montrer la richesse de la question et la complexité qu'elle contient.
Mais alors, Patrick, est-ce qu'on pourrait parler de caisse de résonance ? Non, je sais pas. Peut-être jeu de mots un peu facile, mais...
Non, mais je pense que ce qui était pour moi essentiel, c'était de dès le début avec Olivier, j'avais souhaité vraiment que ces débats soient une part de cette installation, quoi, qu'elles étaient partie prenante de l'installation et qu'il me semblait important que ces débats soient dans l'installation. C'était, pour moi, c'était évident qu'il fallait avoir tous ces gens qui sont venus nous apprendre des choses et puis débattre avec eux pour mieux comprendre et mieux cerner pour moi aussi, hein, pour ce qui se passe, que j'essaie de comprendre pourquoi cet atelier dure depuis 5 ans et comment cette triangulation entre l'association Emmaüs, l'espace Chiasma et moi fonctionne, quoi. Qu'est-ce que ça crée comme question sur ces trois entités, si je peux dire. Et c'est assez troublant. Et je voulais avoir des points de repère sur toutes les questions que traversait l'installation, que ce soit l'idée de la traduction, l'idée de... des langues, l'idée de la musique des langues, c'est pour ça qu'il y avait évidemment de la musique aussi qui accompagnait ces langues, l'idée aussi de cette construction européenne et de ces fermetures de frontières. Enfin, il y avait toutes ces questions-là qui étaient, qu'il fallait mettre en débat pour mieux cerner la complexité sûrement de l'ensemble de l'installation. Et pour revenir à Phong Dan Tran, ce qui était aussi assez intéressant, c'est comment il nous a parlé à un moment donné d'insérer Baudelaire dans le vietnamien. Et c'était assez... pour lui, c'était un territoire inconnu, parce qu'il disait que la poésie vietnamienne, c'est très fleuri, et qu'il y avait une contradiction de vouloir traduire du Baudelaire avec du vietnamien, parce qu'il fallait intégrer des mots qui sont très usuels dans la poésie de Baudelaire, en vietnamien, et que ça lui avait créé beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, et au bout du compte, il s'est rendu compte que cette nouvelle écriture qui intégrait des mots qui ne seraient pas utilisés sans doute dans le vietnamien créait une nouvelle musique, quoi, et il était très heureux d'avoir entendu les enregistrements en particulier avec Thien Nga de cette nouvelle mélodie en vietnamien, quoi. Et c'était assez beau ce qu'il a dit sur cette question-là de cette translation, quoi. Comment la traduction va vers quelque chose d'autre, quoi. Et apporte quelque chose d'autre, sûrement père, mais peut-être. Voilà.
Moi, par rapport à cette question de traduction, je voulais évoquer, alors plutôt à mon endroit, qui est celui de l'administration et de la coordination, mais ça me renvoie à comment s'est construit le partenariat avec Emmaüs, et plus particulièrement par l'intermédiaire de Rosemary Ryan, qui est la directrice des ateliers formation de base, qui est donc une sous-division de Emmaüs Solidarité, qui chapeaute un certain nombre de structures différentes, de centres d'hébergement, de jours, de maraudage, etc., et aussi cet atelier. Finalement, c'est-à-dire que ce projet est construit, effectivement, il est pensé, ou c'est construit au fur et à mesure sur au croisement de plusieurs champs, champs social, champs artistique, et c'est un discours qu'on entend, et on s'imagine que c'est finalement ce qui nous réunit, c'est le projet au final dans son processus. Mais là, il se passe quelque chose aussi qui pour nous est extrêmement enrichissant et participe aussi de cette réflexion. C'est cette temporalité qui du coup dépasse l'année classique ou même les deux années classiques, a créé une sorte de terrain de réflexion commun qui influe chacun sur nos pratiques, sur la façon, sur aussi quels sont les mots qu'on trouve pour se parler, pour échanger. Si je prends l'exemple par exemple de moi, la relation que j'ai avec Rosemary Ryan, même si elle est épisodique puisqu'on est chacune prise dans les urgences de notre propre structure, elle questionne en profondeur chacune, en fait, comment on va défendre tel projet. Nous, par exemple, à mon endroit, comment cette collaboration avec Emmaüs, je la défends auprès de partenaires financiers, par exemple. Et elle, comment elle va défendre à l'intérieur de sa structure l'arrivée de cet artiste, ce qui se passe au niveau de ses ateliers, la façon dont on échange nos doutes, on échange aussi la richesse de ce projet, et comment finalement il y a un dialogue qui se crée et qui, à mon avis, vraiment crée des déplacements très importants entre finalement les images qu'on projette chacun sur soi. Et on parlait de triangularité, et là on peut quand même évoquer le fait qu'on est maintenant vraiment quatre dans cette histoire, avec l'œil à l'écoute. Et l'ouverture sur la radio, c'est vraiment une nouvelle richesse pour nous, et ça pose encore finalement un nouveau déplacement, une nouvelle où on est chacun, c'est-à-dire pour l'espace Chiasma, la question radiophonique était aussi un enjeu intéressant, mais qui s'incarne avec cette histoire, par exemple. Et j'avais envie de vous retourner la question, alors en changeant un peu la règle du jeu, et de me demander comment vous étiez entré dans la danse aussi, et qu'est-ce qui s'était passé au niveau de la rencontre.
Eh bien, je crois que c'est Sophie qui disait ça, qu'au départ, le croisement, c'est le champ du sensible, le champ de ce qu'on peut ressentir. Et je me souviens qu'on avait fait cette réunion ici, à l'espace Chiasma, et j'avais croisé Patrick, il m'avait parlé de son projet. Et moi, j'étais emballé. Donc voilà, j'avais déjà travaillé, moi, avec des gens qui faisaient de l'apprentissage via le FLE. On avait déjà travaillé là-dessus. On aimait beaucoup cette façon de proposer aux gens de se présenter dans leur langue maternelle et en français, et de mélanger ces deux voix, de faire d'un discours, je dirais, compréhensible, quelque chose de comme un matériau sonore qui tire plus, justement, sur la beauté des sons, et c'est tout. Et pour le coup... Le sensible y était, et chaque enregistrement qu'on a fait, il y a quelques photos dans l'exposition qui retracent ces moments-là, et on sent bien que voilà, il y avait beaucoup de sourires, il y avait beaucoup d'envie, beaucoup de joie, beaucoup de rire, même si c'est vrai que les termes abordés de façon sous-jacente sont des thèmes très sérieux. On a parfois affaire à des gens qui ont eu des parcours très compliqués. Je pense à Jim Robinson qui nous est venu, qui est réfugié. Donc voilà, il n'est pas parti de chez lui. Enfin si, il était mort s'il restait chez lui. Donc voilà, on a croisé tout ça. Et au final, c'est ce qu'on a mis en partage, c'est notre ressenti, nos sens. Et je crois que voilà, on est tous plus riches aujourd'hui. Et moi en particulier. Ah, le problème, c'est qu'il faut reposer des questions derrière. Quand on fait de la radio et qu'on pose des questions. Non, ben on va s'autoriser à une nouvelle pause musicale. Aymeric va nous proposer un morceau que nous, on en discutera deux petits mots après, si c'est possible. Monsieur, oui ? Ouais, on en discute après. D'abord, on écoute avec attention. Attention, c'est une composition originale, donc tendez bien l'oreille. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9, on est ensemble jusqu'à 19h. Thank you. Vous êtes bien à l'écoute du 93.9, vous êtes dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. Et pour ce samedi, on s'intéresse à une exposition qui s'appelle Désintégration, qui a pris place dans un lieu qui s'appelle l'espace Chiasma, qui se trouve au Lila, en Seine-Saint-Denis. Ça, on ne l'avait pas encore dit, que c'était la Seine-Saint-Denis quand même. C'est quand même important, on représente, hein, comme on dit. Et alors, on a la chance d'avoir ce soir avec nous deux personnes qui ont participé aux ateliers. Razier, bonjour.
C'est Nidia.
Ah, Nidia, pardon, Nidia. Oh, foulala. Oh là là, Nidia, excuse-moi. Comment ça va ?
Ça va, ça va.
Bien, alors moi, avant toute chose, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition ?
Bon, ça c'est bien. Et ça m'a surpris beaucoup de voir les photos de nous, et avec Patrick, avec toi, et tout le monde.
Mais globalement, ça t'a plu ?
Oui, ça me...
D'accord. Nous avons Tienga avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment vas-tu ?
Je vais bien.
Un petit peu froid hein, quand t'es arrivé quand même. Hein, t'avais froid. Et alors toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette exposition ? Et toi qui as fait les ateliers, qu'est-ce que tu penses du rendu ?
Oui, c'était intéressant. Je travaille avec Patrick depuis 2 ans à l'AFP. Association Emmaüs, je trouvais ça important pour étrangers, il faut bien articuler la bouche
pour c'est
bien prononcer français.
D'accord.
Nous allons lire beaucoup de poésie française, de Baudelaire, avec langue française et langue maternelle. C'est intéressant, c'est beaucoup...
D'accord, très bien. Patrick, il me semble que tout le groupe est venu voir l'exposition. C'était quand ? Alors, c'était mercredi ?
Non, c'était... Oui, c'était mercredi. Mais c'était aussi... C'était mardi. Hein.
Autant
c'est
pour
pas
moi.
Grave. Et, c'est, mais c'est le groupe de cette année. Et en fait, Nidia et Tienga vont commencer leur 3e année. Et, mais donc, c'était donc un nouveau groupe. Et j'étais plutôt très content que ce groupe vienne parce que... C'est plus, plus facile de dire, voilà, je suis artiste, mais qu'est-ce que je fais quoi. Et là, ça devient très concret. Et c'était vraiment une belle rencontre. Hein. Et donc, on reprend les ateliers mardi. Et je pense que le dispositif va être enrichi par cette expérience dans le lieu lui-même. Quoi. C'est ça qui est intéressant.
Alors, je vous invite à écouter une petite interview de 3 autres participants qui ont participé aux ateliers, qui donnent à entendre l'exposition, enfin les textes lus par eux-mêmes. Donc, on va démarrer avec notre ami Minhan.
Je suis Minhan. Je suis vietnamien. Je débute la paix. De Minquit.
Où est-ce que tu habites?
J'habite à Créteil.
À Créteil?
Oui, à Créteil.
Et tu travailles... est-ce que tu travailles en ce moment?
Avant 2007, je travaille. Maintenant, je travaille dans Bagot.
Je m'appelle Ezou, je suis chinoise, je suis grand-mère. J'habite 19e rue de Rouen. J'ai une maison, la Kachi, c'est la Kalimé, là, à côté, la Ilaké. À côté, c'est mieux. C'est bien ça.
D'accord, donc tu habites dans le 19e. Et oui. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans Paris que tu aimes bien ?
J'aime la Paris, la bien la Pantin, la les parcs, les jardins, la beaucoup la mieux la les arbres, la c'est bien ça.
Et j'ai entendu dire, mon petit doigt m'a dit que tu faisais du Tai Chi Chuan. C'est vrai ça ?
Oui.
Et tu fais ça où ?
C'est la 19e Butte-Chaumont.
Au Butte-Chaumont, d'accord. Oui. Au parc des Butte-Chaumont. C'est le matin ?
Oui. Tous les jours matin.
Et vous êtes nombreux à faire du Tai Chi Chuan ?
Oui.
Est-ce que Tienga, par exemple, fait du Tai Chi Chuan avec toi ?
Non, c'est non. Différent de Steen.
D'accord. Et toi, tu fais quoi alors exactement ?
Moi, je fais Tin de Wu, CN fait Tin de Yang.
D'accord. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes énergies qui sont mises en jeu, là, c'est ça ?
Oui.
Je m'appelle Razier. Je suis une Turque. J'ai opté 20e Paris.
Ça fait longtemps que tu es en France ?
Oui, depuis 24 ans.
Et alors, la vie en France, ça va ?
Oui, ça va.
Tout se passe bien ?
Oui.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que toi, tu aimes à Paris ? Quel coin de Paris tu aimes fréquenter ? Aucun ?
Je ne sais pas. Maintenant, je n'arrive pas à penser.
Tu n'arrives pas à penser, d'accord. Mais je ne sais pas, par exemple, dans le 20e, tu es plutôt près de Gambetta ? Tu es dans quel coin du 20e ?
Saint-Blaise et Porte Bagnolet.
Radio Campus Paris, la radio où parfois on n'arrive pas à penser. Mais c'est tout aussi bien. Vous êtes sur le 93.9. Il nous reste quelques minutes pour prendre le temps de se dire au revoir. Et donc, on va se retourner d'abord vers Patrick. Patrick, si on veut s'intéresser de plus près à tout ton travail, je sais qu'il y a un site internet. Lequel est-ce, s'il vous plaît ?
Alors, c'est www.grenze.org. Grenze, ça veut dire frontière en allemand, G-R-E-N-Z-E.
Et est-ce que parmi tes camarades de jeu, il y a des gens qui font des choses, je sais pas, Pierre-Yves, Aymeric, vous avez des spectacles bientôt, des choses comme ça que vous allez proposer ou pas encore ? Je sais pas.
Le site Grenze fédère les travaux communs qu'on fait. Et
d'accord.
Et donc on est au courant forcément.
Ouais.
Et après, s'il y a d'autres choses et si on fait d'autres choses, j'espère que ça se saura. Et juste.
Écoute, viens faire des émissions en direct sur Radio Campus
ouais,
Paris,
au
ça
plaisir.
Marche très bien.
Et juste pour dire, parce qu'à tel moment, je ne sais pas où ça va partir et tout, c'était juste pour dire qu'après cette poésie des langues, je voulais quand même laisser pour le dernier morceau de clôture sur une note un peu festive et un peu micro-dansante et piétinante pour faire la transition avec la future émission. Qu'on laisse quand même une espèce de petite optique positive dans tout ça, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, c'est pas forcément joyeux, même si on y réinjecte de la poésie, non.
Alors, voilà. Les empires intérieurs continuent, Olivier, quels sont les programmes, qu'est-ce qui va se passer à Kiasma ?
On peut suivre sur www.kiasma.net les prochains programmes qui sont, comme une fois n'est pas coutume, dans pas très longtemps, mardi prochain, en fait, le 29 au soir, en situation 2, un projet qui, à la manière d'intégration, questionne plutôt là le contexte psychiatrique et les gens en situation 2. Quelque chose. On accueille Barbara Manzetti dans une formule qui est aussi assez voisine de celle des intégrations du 6 au 10 décembre, une occupation, on appelle ça. Et après, ce sera une pause jusqu'à 2012 où là, on prépare des trucs vraiment de dingue. Quoi.
Oui, parce que 2012, il y a quelques échéances importantes. Il y aura la matière à répondre à
donc
certaines
là, c'est
choses.
C'est du super lourd, donc j'en parle pas trop. Mais les infos vont arriver. C'est vraiment du très, très, très lourd. Donc voilà. Donc a priori, en tout cas, on finit avec deux projets dans les deux semaines qui viennent avant de se reposer un peu.
Il est important, oui, de faire des trêves, car pour faire le plein, il faut faire le vide. Je vous invite à rester à l'écoute du 93.9, puisque vous savez que Radio Campus Paris, ça dure jusqu'à 5h30 demain matin. Il y a aussi un site, si vous voulez réécouter, podcaster, baladodiffuser, commenter, faire plein de choses sur cette émission superbe. Donc www.radiocampusparis.org. Et Aymeric, comment il s'appelle le morceau sur lequel on se dit bye-bye ?
Je sais pas, en général je m'arrange pour trouver des titres imprononçables, on peut l'appeler Gritschotherapie ou Gritschotzislochlitsch, il sera produit dans 2 ans normalement.
En tout cas voilà. C'est sur Radio Campus Paris. Merci à tous.